হবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন রোল, আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না অত্যাচারীর খর্গ কৃপাণ, ভীম রণভূমে দণিবে না। আমি চিরবিদ্রোহী বীর, আমি বিশ্ব ছাড়ায় উঠিয়াছি একা চির উন্নত শীত।
Charme indécis en effraie certains, il fascine, il scandalise et éveille des passions inédites. Il provoque d'hypocrites répulsions, sait se détourner des regards, ou au contraire, il les attire et déclenche aussi des rires. On déteste ce qu'il a d'ambigu. On chérit ce qu'il a de différent. Paradoxal, fantasmagorique et pourtant semblable à tous. Il inspire les plus délicates nuances de l'amour ou de la haine. Sa beauté suspecte, intrigue, inquiète, enflamme. L'essentiel chez lui, il faut le lire entre les lignes. Son visage est une grêle vernale aux angles... Son visage est une grêle vernale aux angles lisses, une plaisanterie pleine de gravité. Sa mâchoire est carrée, son corps viril, ses sourires de femme font toute la différence. Énigmatique, presque maléfique, l'androgyne est un ange entre l'enfer et le ciel. Il charme les brutes, invite les esthètes, corrompt les chastes, convertit les débauchés. Ami de la vertu, il est entouré de curés pédérastes, d'épouses aussi dépravées qu'épanouies. Est-il vierge? Est-il sodomite? Partagé entre le soleil et la lune, tiraillé entre Mars et Vénus, l'androgyne a la voix de pastel entre le secret des sexes. Rassemblant ce qui est séparé, alliant le noir et le blanc, à la fois différent et commun, le plus grand mystère de l'androgyne, c'est qu'il donne une image de l'universel. Salut tout le monde, salut Léa, salut Victor.
Salut Sims.
Ça va ?
Très bien.
Que pensez-vous de cette petite intro ? Bon, certes un peu périlleuse, je l'avoue, mais qu'en pensez-vous ?
Je pense qu'elle a très bien évolué sur les courbes radiophoniques avec ta voix sensuelle.
Merci.
De rien, j'essaie d'avoir un bon point.
Tu vas être compensé d'un verre de whisky, 10 ans d'âge ce soir.
Exactement.
C'est ça.
Tu as tout compris, l'ami.
Voilà, bienvenue à toutes et à tous, c'est l'émission Échec et Glutomate. Voilà, c'est dans le style, hein, on virevolte comme ça, on fait des nouvelles choses. Bienvenue, donc voilà, il est 17h12, c'est l'émission déjantée à l'heure du goûter. Donc j'ai en ma compagnie Mademoiselle Léa, alias Princesse Léa, bonjour.
Bonjour.
Et donc la voix suave que vous avez entendue, la rockstar des rockstars, avec son képi et ses lunettes de soleil, avec sa chemise blanche ouverte et non plus que la chaîne en or, Monsieur Lassu, bonjour.
Bonjour, amoureux auditeurs.
J'ai envie de vous dire quelque chose tous les deux. Jamais ils se rentrent.
Vas-y.
Vous m'avez manqué.
C'est vrai.
Oui.
Merci. Toi aussi.
Voilà, vous avez compris donc le sens de l'émission d'aujourd'hui. On va parler de l'androgyne. Donc ça va être une émission chaleureuse, sexuelle et de toute beauté. Voilà.
Quand tu as prononcé le mot sexuel, Princesse Léa s'est hérissée sur sa chaise.
Oui,
pour l'anecdote, pour les personnes qui n'ont pas l'image.
Ouais, et toi, je t'ai vu te cambrer d'ailleurs.
Exactement.
Allez, voilà, c'est une émission donc remplie de gens farfelus et de musique évidemment. Et on commence avec ce petit Blonde Redhead. À tout à l'heure.
Yeah. Tell me what you want to do.
Bon, décidément, aujourd'hui, tout part en couille.
Oh, le blanc.
Tout part en couille dans cette émission. On a le jack qui marche plus. On a une petite CD qui va nous lâcher encore, là.
Bon, mais Prof Tom vient d'arriver. Bonjour à tous.
On t'entend pas, Prof Tom, mais c'est normal parce que j'ai... Voilà. Bonjour, Prof
Vous
Tom.
Vous coupez les micros.
Voilà. Salut, Prof Tom.
Ça va?
T'as la tête du gars qui s'est pris une cuite la veille.
Comme d'hab.
Ouais, c'est vrai.
C'est ma gueule.
C'est ça.
Bon. Qu'est-ce qu'elle a ma gueule?
Qu'est-ce qu'elle a ma gueule?
Quelque chose qui va pas. Merci Vic.
De rien. Bon, allez, musique, on essaie de réparer tout ça. Que voulez-vous que je vous dise, hein? Allez, salut.
pensée assez intense. Quand le rapport est très intense. C'est vraiment l'idée d'un accomplissement. Comme si le sexe est un grand gâteau au chocolat. Et que sur le dessus du gâteau, il y avait quelque chose d'hyper écœurant. Si on le mange directement, ça ne va juste pas aller. Mais si on y va progressivement, ben voilà, on a la fin du gâteau et il nous manque juste un petit truc. Ce bonbon hyper écœurant. Et quand on l'aura mangé, on fera « Ah, c'est bon, je regrette pas d'avoir mangé. » Ça doit être un appel du corps. Parce que si on essaye une fois et que ça se passe mal, c'est mort pour un certain temps et ça va être très dur de recommencer. Je m'appelle Laurence et j'ai 25 ans. Première fois que t'as un rapport sexuel, tu vas chez tes copines. Tu fais oui, ça y est, je l'ai fait, gna gna gna, et ça s'est passé comme ça, gna gna, tu donnes plein de détails. Et j'ai jamais une copine qui est venue chez moi en me disant je me suis fait sodomiser, ça s'est passé comme ci, comme ci, comme ça. Non. T'as un truc où tu le dis pas. Si ça s'est passé pour toi, que t'imagines pas du tout que ça a pu se passer dans ton entourage. Mais il y a quelque chose de gênant quand même, parce que ça touche à quelque chose d'assez intime. Tu vas plus facilement dans une pièce là où il y a quelqu'un qui fait pipi. C'est pas gênant, genre les pissotoirs chez les mecs, ben, c'est ouvert. Quand tu passes une soirée avec une copine qu'elle doit faire pipi à un moment, elle te dit ben, viens, on continue la conversation. Mais tu vas jamais accompagner une copine faire caca. Il y a les pissotières, mais il n'y a pas de cacatières. Enfin, les portes sont fermées à ce moment-là. Et il y a un truc comme ça où la sodomie, outre que c'est pas bien, c'est sale.
Voilà, c'était donc un reportage qui s'appelle L'âge de la sodomie, mais on va le continuer, on va un peu l'expliquer. La sodomie, pourquoi, comment, mais encore, une jeune femme drôle, délurée et plutôt belge, donc vous a raconté à quel point elle aime le sexe anal, et son témoignage ouvre sur un vertige des possibles, résolument moderne, et oui. Allez, c'est pas fini, on continue.
La première fois que je me suis fait sodomiser, c'est celle qui est devenue ma femme qui m'a un petit peu dit oui, ou qui a essayé tout simplement, et j'ai fait wow, tu vas pas de ce côté-là, toi, tu me laisses, s'il te plaît. elle voulait aussi qu'on s'achète un god. Je pensais qu'il me faudrait plus de temps que ça, mais en fait, c'est le soir même, on a commencé, c'était très très gai. Et très vite, ça s'est fait très naturellement. Elle a pu, mais j'en avais même envie. Donc elle est allée par derrière et c'était hyper agréable. Et le fait de découvrir ça, mais c'est une porte énorme qui s'ouvre, quoi. Tout ce qui va être ouverture et fermeture du sphincter, c'est un moment qui n'est pas hyper agréable. Donc moi je supporte très mal tout ce qui est du coup les godes ondulés ou les choses trop grosses. Par contre j'adore quand ça bouge à l'intérieur. Donc moi ce que j'aime bien c'est un cylindre qui soit vraiment de même taille du début à la fin et on y va et ça doit remuer dedans, ça doit secouer et plus ça remue plus moi je vais y trouver mon compte. Il y a le chapelet aussi qui est terrible, donc ça c'est surtout formidable quand on se fait faire un minou et au moment où le chapelet doit être enfoncé petit à petit, donc c'est ces petites boules comme ça qui sont reliées à une corde, et au moment de l'orgasme de retirer le chapelet lentement mais en continu, et ça décuple l'orgasme et ça le fait rallonger aussi. Mais le chapelet, en général, c'est tout petit, donc il n'y a pas besoin de lubrifiant. Mais sinon, un truc qui est très bien aussi, c'est de simplement mettre les doigts. Mais il y a toujours ce truc de quand ça glisse, c'est mieux. Dès que ça accroche, ça fait mal. Donc le top du top, ce qu'on fait en tout cas pour le moment et ça nous convient très bien, c'est qu'on met tout simplement nos doigts dans un préservatif et qu'on met du gel sur le préservatif, et du coup on peut vraiment calibrer, mettre un doigt, deux doigts ou grande prestation, un point. Et avec les doigts c'est gai aussi parce que tu peux vraiment contrôler la douleur. Ça fait partie de mon plaisir de la sodomisation, c'est que ça va être hyper intense, je vais être détendue et je m'en souviendrai encore quelques heures après, parce que c'est toujours frustrant quand on fait l'amour, même si c'est bien, bah, 5 minutes après on est de nouveau en train de cuisiner, de faire la lessive, bon là je le sens et je le sentirai encore le lendemain, parce que le passage dans le cul c'est mine de rien assez violent, même si ça s'est fait doucement. Et tu sais dire un ou deux jours après, bah oui, je me suis fait sodomiser. C'est pas désagréable, ou même quand tu y repenses, c'est même plutôt agréable, parce que t'as la mémoire du corps. Mais c'est pas anodin comme rapport. Thank you. la personne est derrière dans la pénétration vaginale, tu as cette sensation de former un avec l'autre. Mais avec la sodomie, que ça passe par si elle est derrière ou si elle est devant, c'est, pour moi, il n'y a pas symbiose à ce moment-là. C'est agréable parce que les sensations sont agréables, c'est agréable parce que tu te livres complètement, c'est agréable parce que tu sens qu'en face, même si c'est violent, tu as un respect, une écoute qui est là. C'est sans défense en fait. Quand tu prends dans le cul, ben, t'es obligé de baisser toutes tes armes et de faire, ben voilà, fais de moi ce que tu veux. Je me donne. Tu peux y aller. C'est gay, quoi. La sodomie, c'est un rapport extraordinaire parce que tu ferais pas ça avec n'importe qui.
On dit pas sodomisation, on dit sodomie.
Ah, ça n'existe pas, sodomisation.
On dit sodomiser. Et non, c'est sodomie.
Bah ouais. Bah tu dis ce que tu veux, hein. Je crois que je continuerai à dire sodomisation. Parce que t'as un truc, tu vois, dans le mot sodomisation. Ben c'est comme une fusée, sodomisation. Sodomie, c'est trop court.
Le soleil revient à sa place. Je rassemble les morceaux de ma tête. Ma tête qui flotte à la surface du lendemain de cette fête. Au comptoir d'une aurore bancale, je trinque à la santé de personne. Une goutte de rosée matinale, elle gifle ma gorge frissonne. J'ai froid et je n'emmène pas large. Dans ma chemise de nuit blanche, ces batailles et ces dérapages, et le rouge à lèvres sur ma manche. J'ai déchiré ma mémoire, ma gueule, une photo de toi. Ma langue souillée dans la débauche, patauge dans une écume pâteuse, et l'arrière-goût qui la chevauche empeste mon haleine brumeuse de mon sexe vagabond. L'odeur de celui d'une femme s'échappe en un parfum brouillon. Je pisse contre un mur de Paname. J'ai encore couché au hasard de l'autre côté de la frontière, entre le rêve et le cauchemar, avec une chatte de gouttière. J'ai déchiré ma mémoire, ma gueule, une photo de toi. Elle traîne sur le trottoir, le balayeur balayera. C'est tout Paris, mes mains lourdes comme des valises, et la porte de Choisy s'ouvre sur une banlieue grise, boulevard de Stalingrad, Vitry. Ma tanière grogne là-bas, plus que trois étages et mon lit, mon vieux berceau de gueule de bois. Je croise le facteur au rez-de-chaussée. Je lui dis bonsoir, il me dit bonjour. Je lui demande s'il y a du courrier. Le courrier, j'y pense toujours. J'ai déchiré ma mémoire, ma gueule, une photo de toi. toi, le balayeur, balayeur. J'ai déchiré ma mémoire, le balayeur, balayeur.
Hier, dans le train, peu après Bologne, je crois, et sans que j'aie pu distinguer son arrivée, je m'aperçois qu'un jeune homme est debout dans le couloir, lisant son livre en italien, et qui, de temps en temps, me jette des regards pleins de pâleur. Ses cheveux noirs et bouclés assez longs laissent entrevoir, lorsqu'il tourne un peu la tête, un petit brillant à l'oreille gauche. Sa peau est blanche comme je l'aime. J'aime beaucoup aussi l'habillement de ce jeune homme assez ordinaire, avec des couleurs peu définies, jolies et ternes, des matières communes mais si bien choisies et accordées qu'il en sorte une élégance. Un pantalon de tergale, peut-être bronze mais sans l'éclat du métal, des mocassins noirs et une chemise blanche à petits carreaux ou à rayures, qui laisse voir à même la peau la forme ancienne d'un maillot de corps, qui laisse très libre la surface des épaules et jusqu'à la moitié du torse. Glabre. Blême. À deux reprises, il déboutonne puis reboutonne, feignant dans son souffle des variations de température un bouton de sa chemise, comme pour me dévoiler un peu plus de sa carnation, comme pour jouer tout doucement avec mon désir. J'imagine que ce maillot de corps blanc, d'un coton un peu rude, peut-être strié sous mes doigts, se prolonge jusqu'aux cuisses et replié dans le pantalon, recouvriront ses fesses et son sexe lorsqu'il enlèvera, levant fréquemment la tête de mon livre sur lequel je ne parviens plus à me concentrer. Je jette des regards vers lui comme il en jette vers moi. Mais nous ne nous lançons aucun signe, aucun infléchissement des rides qui bordent les yeux ou du coin des lèvres ne parviennent à se lire sur nos visages et même n'émergent. Pourtant, dans l'intervalle de nos regards, j'échafaude une grande passion pour ce garçon. Une histoire d'amour pleine de douceur et presque juvénile. Des très longs baisers, des érections honteuses et indifférentes sous les vêtements à demi défaits, une jouissance sans cesse remise, des mains et des pieds entrelacés, la caresse des chairs sèches où rien n'exude, des sodomies interminables comme des noyades, et entrecoupées en somme des fellations gémellaires d'avant l'esprit, et d'où la prise du fantasme s'est débranchée, des succions terreuses, ventreuses, des mots d'amour qui passent entre les langues nouées et adverses, des mots qui roulent dans la salive. Mais tout d'un coup, je vois que le garçon remet son livre dans son sac. Et je n'ai pas le temps de sortir du compartiment que le train s'est arrêté. Et que le garçon est déjà sur le quai. Il entre dans le restaurant de la gare. Je le vois à travers les vitres du restaurant qui a l'air vide. Je vois sa silhouette se déplacer. Puis ressortir. Il me jette un second regard. Sans le moindre infléchissement toujours, ni de son visage, ni du mien. C'est là que je devrais descendre du train, courir vers lui à toute vitesse ou que lui remonte. Mais au moment de disparaître tout à fait par la porte, il me jette un second regard. Et là, je lui fais un signe de la main qui a la sauvagerie du premier baiser. Et là, je lui rends aussitôt avec la même violence. Le train s'en va.
Jingle, jingle, jingle.
Jingle, jingle, jingle. C'est l'anecdote
de
Princesse et
la Suze.
Jingle, jingle, jingle. Jingle, jingle, jingle.
C'est un long travail.
Oui, hein. Je vois ça.
C'est la nouvelle version. Bonsoir.
Bonsoir. Même à Fun Radio, ils font pas mieux, je crois.
Merci. L'anecdote de Princesse.
C'est en cours de philo, à 17 ans, que le mot androgyne prit tout son sens. Lumière dans l'esprit adolescent d'une jeune curieuse, il n'était pas seulement qualificatif donné à toute garçonne ou mâle efféminé, il devenait mythe littéraire, créature mythique même. Il s'agissait pourtant de Platon et du banquet. Après de nombreux travaux sur l'androgynie, je choisis aujourd'hui de simplement porter à votre connaissance cette drôle d'histoire. C'est donc dans le banquet de Platon qu'Aristophane tient un discours sur l'amour tiré d'un mythe, ce mythe des androgynes. Il s'exprime en ces termes à Eryximaque. Je vais essayer de vous faire connaître la puissance de l'amour et vous enseignerai aux autres ce que vous aurez appris de moi. Mais il faut commencer par dire quelle est la nature de l'homme et les modifications qu'elle a subies. Jadis, la nature humaine était bien différente de ce qu'elle est aujourd'hui. D'abord, il y avait trois sortes d'hommes. Les deux sexes qui subsistent encore et un troisième composé de ces deux-là. Il a été détruit. La seule chose qui en reste, c'est le nom. Cet animal formait une espèce particulière et s'appelait androgyne, parce qu'il réunissait le sexe masculin et le sexe féminin. Mais il n'existe plus, et son nom tenu pour infamant. En second lieu, tous les hommes présenteraient la forme ronde. Ils avaient le dos et les côtes rangés en cercle, quatre bras, quatre jambes, deux visages attachés à un cou rond et parfaitement semblables. Une seule tête qui réunissait ces deux visages opposés l'un à l'autre, quatre oreilles, deux sexes, et le reste dans la même proportion. La différence qui se trouve entre ces trois espèces d'hommes vient de la différence de leurs principes. Le sexe masculin est produit par le soleil, le féminin par la terre, et celui qui est composé des deux autres par la lune, qui participe de la terre et du soleil. Ils tenaient de ces principes leur forme et leur manière de se mouvoir, qui est sphérique. Leur corps était robuste et vigoureux et leur courage élevé. Ce qui leur inspira l'audace de monter jusqu'au ciel et de combattre contre les dieux. C'est alors que Zeus examina avec les dieux le parti qu'il fallait prendre. Les dieux ne voulaient pas anéantir les hommes, mais d'un autre côté, il ne pouvait pas supporter une telle insolence. Enfin, après de longues réflexions, Zeus s'exprima en ces termes. « Je crois avoir trouvé, dit-il, un moyen de conserver les hommes et de les rendre plus retenus. C'est de diminuer leur force. Je les séparerai en deux, par là ils deviendront faibles, et nous aurons encore un autre avantage, ce sera d'augmenter le nombre de ceux qui nous servent. Ils marcheront droit, soutenu de deux jambes seulement, et si, après cette punition, ils conservent leur audace impie et ne veulent pas rester en repos, je les séparerai de nouveau et ils seront réduits à marcher sur un seul pied. » Après cette déclaration, le dieu fit la séparation qu'il venait de résoudre. Il commanda ensuite à Apollon de guérir les plaies et de placer le visage et la moitié du cou du côté où la séparation avait été faite, afin que la vue de ce châtiment les rendît plus modestes. Apollon mit le visage du côté indiqué et, ramassant les peaux coupées sur ce qu'on appelle aujourd'hui le ventre, il les réunit à la manière d'une bourse que l'on ferme, n'y laissant au milieu qu'une ouverture qu'on appelle nombril. Quant aux autres plis, qui étaient en très grand nombre, il les polit et façonna la poitrine. Cette division étant faite, chaque moitié cherchait à s'unir de nouveau avec celle dont elle avait été séparée. Et lorsqu'elles se trouvaient toutes les deux, s'enlaçaient mutuellement, ardemment, dans le désir de se confondre à nouveau en un seul être, qu'elles finissaient par mourir de faim et d'inaction, ne voulant rien faire l'une sans l'autre. Quand l'une des deux moitiés périssait, celle qui subsistait en cherchait une autre, à laquelle elle s'unissait de nouveau, soit que ce fût la moitié d'une femme entière, ce que nous appelons maintenant une femme, soit que ce fût une moitié d'homme, et ainsi l'espèce s'éteignait. Mais Zeus, pris de pitié, imagine un autre expédient. Il met par devant les organes sexuels, car auparavant ils étaient par derrière. On concevait et l'on répandait la semence, non l'un dans l'autre, mais à terre, comme les cigales. Zeus mit donc les organes par devant, et de cette manière il rendit possible un appel, l'organe mâle pouvant pénétrer dans l'organe femelle. Si dans l'accouplement un homme s'unissait à une femme, des enfants en étaient le fruit et l'espèce se perpétuerait.
see the city fuck and fight. We'll see the wrongs that should be right. The wrongs made by us tonight. Passenger, oh how he rides. Yeah, the passenger, but he rides and he rides. Yeah!
C'était Échec et Glutamate, l'émission des gens à l'heure du goûter. Alors c'était une émission un peu compliquée, oui.
Techniquement, ouais.
Ouais, ouais. C'est vrai qu'on a fait la tempête la semaine dernière, mais on leur a dit que c'était la tempête aujourd'hui.
Ouais, il y a eu des séquelles dans ce studio, je crois.
Ouais, il y avait des petits problèmes. Mais on voit une autre des tempêtes, notre rat de paille. Oh. C'était la Nice, il a repris les tics des vieux pailloux, tu sais.
C'était la vallée de la Roya, hein.
Mon bâtisse Nissard.
Mon bâtisse représente la vallée de la Roya, hein. Et voilà.
D'accord, ça c'est fait. Un truc hyper important parce que dimanche, il se passe quelque chose d'extraordinaire à la Croix-Rousse.
Alors pour ça nous avons une petite invitée qui va nous en parler. Princesse Léa, qu'avez-vous à dire sur ce sujet?
J'ai entendu dire qu'il y avait un petit événement au Café de la Soie, il me semble, c'est ça,
Café c'est de la Soie. C'est où ça, le Café de la Soie?
Alors Croix-Rousse, quelqu'un connaît la Croix-Rousse?
Non.
Donc c'est dans le 4e arrondissement de Lyon, hein, sur une petite colline. C'était la colline des travailleurs.
Et oui,
Canu.
Voilà, oui,
Canu.
Sans le point de la plus rebelle des radios.
Donc voilà, Café de la Soie, place Bertone, Croix-Rousse, Lyon 4e, 18h-22h. Alternatif propose une soirée thématique T-Rock Coco.
T-Rock Coco.
T-Rock Coco. Coco.
Concert, expo, animation, théâtre, performance. que des choses rock, quoi. Enfin,
et si
rock.
Vous voulez passer à la radio, on va venir avec quelques petits instruments et on fera quelques prises reportage grâce à nos petits glutas reporters pour l'événement.
Et oui, on t'a pas dit Radpaille, mais on va te mettre au travail.
Exactement. Oui. Fini les vacances, là.
Fini les vacances, Radpaille. Hein. Ça fait 4 semaines que tu te.
Fini la lavande. Pas une. Hein. Il sniffait de la lavande dans le sud. Ah bon. Donc nous, on faisait les émissions, on se décarcassait à combler son absence.
Oh, du croc, calme-toi.
J'ai pensé en plus. Oh,
mais t'as pas fait la blague Andros aujourd'hui, bizarre.
Non, bah déjà, je suis arrivé en retard.
Ouais, c'est vrai que t'avais pas la posture pour faire une blague pourrie aujourd'hui.
Ouais, grave.
Voilà, c'est ça.
Je vais même faire pire. Je vais relever le niveau de la discussion. Oui, car pour compléter, donc ouais, le mythe de l'androgyne, tout le monde le connaît par Platon, mais en fait, il est commun à toutes les cultures, à toutes les traditions, et même dans la Bible, si vous lisez bien, mot pour mot, avant que Ève soit créée, il est dit et Dieu créa l'homme à son image et il le créa homme et femme. Donc à la base, Adam est un androgyne aussi. Ensuite, il y a séparation des deux, passage de l'unité à la multiplicité. Bon, on va pas rentrer dans les détails, après c'est compliqué.
Merci prof.
Merci professeur.
Coupez les micros.
Vous êtes la lumière de cette émission. Merci professeur.
De rien.
Bon,
je pense mon retard.
Ceci dit, nous avons toujours pas choisi le thème de la semaine prochaine.
Oh, si, mathématiques.
Ah oui, mathématiques.
Eh ben voilà.
Radpaille.
Ouais.
C'est
il est perché.
Radpaille, c'est pour toi qu'on fait cette émission.
Génial.
Hein.
Bon, bien, bah moi je suis prêt. Hein.
Tu seras là, tu seras en place.
Ça fait
dans la place.
Deux mois qu'on veut la faire cette émission, donc ça fait 2 mois que je suis prêt.
Par le micro, Radpaille, on t'entend pas.
Ouais, si, mais voilà.
D'accord. Très bien. Eh ben les mathématiques.
L'émission complètement à l'arrache aujourd'hui. Ok.
Comme on dit à Lyon, à la Zub.
À la Zub. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Pas de sang, pas de haine. C'était Échec et Glutamate. Salut, salut.
Et à dimanche, bisous.
Et à dimanche.
Bye, venez dimanche, place Bertome, Croix-Rousse.
Salut.